C'est quoi la miséricorde ? C'est le cri que m'avait lancé une passante, jeune femme aussi dynamique, tonique que pressée, qui galopait sur le trottoir et sur le côté, sur l'enceinte de l'église, vous savez, sur le mur, elle avait lu l'inscription « C'est la miséricorde que je veux », dit Jésus. Et comme elle m'avait aperçu devant les grilles, m'apercevant, sans même ralentir sa course, elle m'a écrit « C'est quoi la miséricorde ?» Et moi, pareil, sur le même ton, je lui ai dit « C'est l'amour qui pardonne !» C'est vrai, c'est l'amour qui pardonne. Mais pas seulement. La miséricorde, c'est d'abord l'amour qui console. La miséricorde, elle est d'abord compassion et consolation. Au soir de Pâques, Jésus vient consoler ses disciples. Il vient consoler ses disciples qui étaient anéantis par sa mort, sa disparition. La miséricorde, c'est l'amour qui console, et le consolateur, c'est un des plus beaux noms de l'Esprit Saint. C'est comme ça qu'on l'invoque. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur. La tradition dit que la première visite de Jésus au matin de Pâques a été pour la Vierge Marie, sa mère, et qu'il a dû la consoler longuement. Mais ça a été encore plus long pour les disciples. 40 jours. 40 jours, ce temps de Pâques, le temps pascal, ces 40 jours jusqu'à l'Ascension, c'est d'abord un temps de consolation. De consolation autant que d'enseignement. Il vient effectivement reprendre son enseignement. Certes, mais les deux vont ensemble, la consolation et l'enseignement, ce sont deux des sept œuvre de miséricorde spirituelle, consoler les affligés, enseigner les ignorants. Et toutes ces œuvres de miséricorde ont un même objectif, faire vivre, pratiquer la charité, vivre de l'amour de Dieu, pratiquer la charité et par conséquent augmenter la foi, relever, restaurer, augmenter la foi. Vous vous souvenez de cette demande des disciples à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Cela peut être notre prière de tous les jours quotidienne, d'autant qu'aujourd'hui, le plus grand malentendu sur la miséricorde serait de la percevoir comme une dispense de prière, une dispense de foi. C'est ce que nombre de nos contemporains autour de nous pensent. Ils pensent que ce n'est pas nécessaire de prier. Ce n'est pas nécessaire de venir à la messe, ce n'est même pas nécessaire d'avoir la foi, puisque Dieu pardonne, puisque Dieu pardonnera, puisque Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, oui, Dieu pardonne. Il pardonne à ceux qui reviennent, à ceux qui, comme Thomas, seront revenus, se seront convertis. Revenez à moi de tout votre cœur, revenez à moi, dit le Seigneur. C'est la première phrase de la première lecture du premier jour de carême, au mercredi des cendres. Revenez à moi de tout votre cœur. Et ça ne s'est pas arrêté à Pâques. La joie de la résurrection, ce n'est pas une dispense de conversion, ce n'est pas pour dire allez, hop, on passe à autre chose. Aujourd'hui, maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi, déchirez vos cœurs et pas vos vêtements, ouvrez vos cœurs pour vous ouvrir à l'amour de Dieu. Car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Et le prophète Joël ajoute, qui sait, il pourrait renoncer au châtiment. Peut-être qu'il renoncera au châtiment. Pourquoi est-ce que Thomas est revenu?
Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Par curiosité, pour faire plaisir aux copains.
Mais on est fou. Thomas n'était pas fou. Il savait la puissance de Dieu. La puissance de Dieu et le risque qu'il prenait, si ce que les apôtres disaient était vrai. Et c'est vrai! Le Christ est vraiment ressuscité. Il faut le dire autour de nous, dans nos familles, à nos amis, à tous ceux qui vivent comme si Dieu, pour eux, si tant est qu'il existe, leur pardonnerait ou leur pardonnera automatiquement. Y compris de se moquer de lui. Y compris de se moquer du monde. Le pardon n'est pas automatique. Et la lettre de Saint Jacques dit « Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas narguer impunément, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on a semé, on le récoltera. La miséricorde, c'est l'indulgence de Dieu pour ceux qui se convertissent, pour ceux qui reviennent. Et pour les autres, il y a quand même un châtiment à redouter. On n'en sait rien, mais on peut le redouter. Leurs proches, nous, pour eux, tous ceux que nous connaissons, nous diront « Non, Seigneur, c'est vrai, ils n'avaient pas la foi, ils ne mettaient pas les pieds à l'église, mais ils étaient tellement gentils. » La purification du cœur, la douleur de la purification, elle sera certainement plus morale que physique, plus spirituel que corporel, et c'est la raison pour laquelle nous distinguons deux types d'œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles. Les corporelles sont les plus connues, elles viennent de cette grande parabole du chapitre 25 de Saint Matthieu, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, dit le Seigneur. » Ces œuvres qui consistent, je cite le catéchisme, qui consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Et le catéchisme ajoute, parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des principaux témoignages de la charité fraternelle. L'aumône faite aux pauvres, elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Parfois on me demande, est-ce qu'il faut donner à tous ces tapeurs, tous ces gens qui mendient? Écoutez le catéchisme. Une œuvre de charité fraternelle. Et les œuvres de miséricorde spirituelle sont tout aussi importantes, qui sont résumées, elles sont également au nombre de sept, et la septième les résume d'un mot, la prière. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Qu'on soit tout seul dans sa chambre en prière, qu'on soit ensemble à la messe, qu'on rentre dans une église. Dans la miséricorde, le pardon est important, mais il n'est qu'un aspect. Il vient après la consolation, après l'avertissement des pécheurs, après l'enseignement des ignorants. Et l'enseignement des ignorants, pour autant qu'ils veuillent bien commencer un petit peu à écouter, qu'ils veuillent bien, comme Thomas, venir voir. Et la première de ces sept œuvres de miséricorde spirituelle est très claire, conseiller ceux qui sont dans le doute. On dirait aujourd'hui les indécis, les hésitants, sans perdre de temps avec les opposants. La miséricorde de Dieu, c'est l'indulgence pour ceux qui se convertissent. C'est le Père qui accueille à bras ouverts. Mais cet accueil sera juste, peut-être même sévère. Dans cette page d'évangile, on oublie quand même de souligner ceci. On peut le dire de façon assez familière. Thomas, il s'est tapé la honte. Quand Jésus, devant tout le monde, devant les autres, rappelle à Thomas ce qu'il avait osé dire, osé même penser, mettre le doigt dans des plaies, mettre son doigt dans les plaies de Jésus, mettre sa main dans le côté transpercé de Jésus. Eh bien Thomas, me voici, avance ton doigt, mets ta main. Tu es gêné? Tu as honte? Tu regrettes? Le pardon ne fait pas l'économie du regret. Je vous le répète sans cesse, le nombre de personnes qui me disent « j'aime pas me confesser ». Et chaque fois, je me retiens de dire « mais moi non plus !» Moi non plus, je n'aime pas me confesser. Moi aussi, j'ai honte de mes péchés. Et heureusement que je regrette. Heureusement que j'ai honte. Sans quoi je ne pourrais pas me convertir, je ne pourrais pas changer, je ne pourrais pas progresser, et je ne pourrais même pas être pardonné. Sans ce qu'on appelle la contrition. Heureuse honte. Heureux regret qui m'ouvre au pardon.
Thomas s'est tapé la honte. Mais il a surtout vu à quel point Jésus l'aimait. C'est son exclamation, ce cri d'amour. On pourrait reprendre la même phrase. Il vit et il crut. Heureuse honte, effacée par tant d'amour.